Et si la pire chose à faire pour apprendre un mouvement complexe, ben, c'était de le répéter parfaitement, de façon genre hyper concentrée, 50 fois de suite?
Ouais, ça, c'est le genre de question qui bouleverse pas mal de certitudes.
Vraiment, parce qu'on a tous cette situation en tête, là. Il y a une frustration universelle quand on essaie d'apprendre une nouvelle aptitude physique.
Ah, le fameux moment où le corps refuse de comprendre.
Exactement. Ça peut être, mettons, un balayage technique en arts martiaux ou un swing de golf, ou même juste apprendre à taper à 10 doigts sur un clavier, tu sais.
Ouais, tout à fait.
On répète, on s'acharne, mais ça marche pas. Le geste est saccadé, c'est laid, c'est forcé. On dirait genre que les signaux se perdent à quelque part entre le cerveau puis les mains.
C'est un gros manque de connexion, hein.
Puis là, un mardi soir quelconque, sans aucun avertissement, ben ça débloque. Le mouvement devient super fluide, le fameux déclic.
Le fameux déclic, ouais. C'est souvent perçu comme un moment un peu mystique, tu sais.
Totalement mystique.
Genre, c'est le moment où le corps comprend avant même que le cortex cérébral réalise ce qui vient de se passer dans le fond.
Sauf que, ben, notre exploration en profondeur d'aujourd'hui s'attaque précisément à ce mythe-là. On se base sur un document de référence vraiment capoté tiré de la série Radio GGS.
Ouais, une excellente source.
Ça décortique de façon hyper exhaustive le champ scientifique caché en arrière de notre pratique physique. Fait que notre mission aujourd'hui, c'est de prouver que l'apprentissage d'un mouvement, ben c'est pas de l'intuition.
Non, c'est vraiment pas un don du ciel.
Exact, c'est pas un folklore transmis par un vieux maître d'arts martiaux, là. C'est une véritable science dure, avec genre plus de 60 ans de recherche expérimentale super rigoureuse. Bon, décortiquons tout ça.
Allons-y.
Par où est-ce qu'on commence pour comprendre ce qui se passe réellement sous le capot de nos propres mouvements?
Bien, je dirais qu'il faut d'abord remettre les pendules à l'heure concernant la définition même de ce domaine-là. L'objectif de cette science, c'est vraiment d'aider quiconque s'entraîne ou entraîne les autres à comprendre la mécanique pure de sa propre progression.
OK.
Et ce qui est fascinant ici, c'est le gouffre qui existe entre la perception du public et la réalité académique. T'sais, la majorité des gens qui font du sport, ben, ils ignorent carrément que l'apprentissage moteur, c'est un vrai champ de recherche.
Avec ses propres laboratoires, puis tout.
Exactement. Ses laboratoires, ses revues scientifiques, ses doctorats. Dans l'imaginaire collectif, l'entraînement, c'est surtout de la sueur, de la volonté, puis l'instinct d'un bon coach.
Ben, c'est sûr, ça tombe sous le sens quand on y pense. L'image classique qu'on a, mettons, c'est l'entraîneur de boxe avec sa petite serviette à l'épaule.
Ouais, le vieux de la vieille.
C'est ça. Il regarde son poulain frappé au sac, puis il lui dit juste, genre, lève ton coude, tourne ta hanche, il lit le mouvement juste avec son expérience. On a toujours valorisé cette espèce de transmission orale-là.
Et attention, hein, l'intuition de ces vétérans-là est souvent redoutablement efficace sur le terrain.
Ah ben oui.
Mais le bas blesse au niveau théorique. Historiquement, ce savoir de gymnase-là, ben, il manquait d'un cadre unifié.
OK, fait que c'était plein de petites recettes isolées, là.
C'est exactement ça. Mais au fil des décennies, surtout depuis les années 60, la psychologie expérimentale, la biomécanique et la neurophysiologie se sont mises à travailler ensemble pour quantifier tout ce savoir-là. L'art empirique est vraiment devenu une science mesurable.
Wow, OK.
On se fie plus juste à l'œil du coach. On mesure des temps de réaction en millisecondes, on évalue la rétention neuronale, tout ça.
Tu sais, ça me rappelle ce phénomène qu'on observe souvent chez les athlètes de pointe, le fameux paradoxe de l'expert.
Ah oui, très classique.
Mettons, on prend un champion olympique, quelqu'un qui exécute une projection de judo avec une perfection juste terrifiante, tu sais.
Ouais.
On y tend un micro, on lui demande « comment tu fais ça? » Puis là, ben, c'est le silence radio.
Au pire, il va donner une explication qui est biomécaniquement fausse.
C'est fou, hein? Son système nerveux sait parfaitement comment faire, mais sa conscience n'a juste pas le vocabulaire pour l'expliquer. Fait que c'est là que la science débarque, pour mettre des chiffres sur cet instinct-là.
C'est vraiment le rôle fondamental des chercheurs en sciences du mouvement. C'est le champion exécute, mais le scientifique, lui, il cartographie.
Ouais.
Et le phénomène du mouvement humain est tellement vaste. Je veux dire, ça va des premiers pas d'un nourrisson jusqu'au service à 200 km/h d'un joueur de tennis.
C'est énorme.
Fait qu'il a fallu diviser ce champ d'études pour pouvoir l'analyser intelligemment. Les sources qu'on examine identifient trois branches majeures. Et la première, c'est vraiment la science de l'instant présent, soit le contrôle moteur.
OK, le présent. Fait qu'on parle de ce qui se passe à la milliseconde près.
Exactement. C'est la coordination en temps réel de ton système nerveux et musculo-squelettique. Mettons, pensons à quelqu'un qui marche sur un trottoir glacé un matin d'hiver.
Ah ouais, très pertinent ici.
Ben oui, le pied glisse, avant même que la personne ait la conscience du danger, Les propriocepteurs de sa cheville envoient un signal d'urgence direct à la moelle épinière.
Ouf, OK.
Les muscles opposés se contractent pour rétablir le centre de gravité. Les bras balancent pour compenser. C'est ça, le contrôle moteur.
Wow!
Le corps gère des retours sensoriels puis ajuste le tir ici et maintenant pour survivre à la situation.
Mais attends, si c'est le cerveau puis les nerfs qui règlent un problème physique comme ça, en quoi c'est différent de l'apprentissage?
Ah, c'est une excellente question.
Parce que, je veux dire, réparer une glissade sa glace ou apprendre un nouveau pas de danse mécaniquement parlant, c'est toujours un signal électrique qui part du système nerveux central vers un muscle, non? Est-ce qu'on n'est pas juste en train de jouer sur les mots?
Ben non, c'est pas juste jouer sur les mots. La mécanique de base du signal électrique est similaire, c'est vrai. Mais l'enjeu puis la trace laissée diffèrent totalement.
OK.
Tu sais, le contrôle moteur, c'est comme un patch logiciel temporaire. On règle une crise immédiate pour pas tomber. Mais ça modifie pas du tout l'architecture du cerveau pour le mois prochain.
Ah, je comprends.
Fait que la deuxième branche, l'apprentissage moteur, ben ça, c'est la science du futur.
OK, l'apprentissage moteur.
C'est l'étude de la façon dont la pratique vient créer une modification structurelle relativement permanente dans notre système.
Fait que c'est passé de la maladresse initiale à la fluidité d'un expert.
En plein ça. La pratique d'aujourd'hui change la physiologie pour demain.
D'accord, je vois super bien la nuance, là. L'un gère l'urgence immédiate, l'autre bâtit vraiment l'infrastructure à long terme. Et ça, mais ça nous laisse la troisième branche dont parlent nos sources?
Oui, le développement moteur.
Oui.
Ça, c'est la science du temps long.
OK.
C'est observer comment notre capacité à bouger est dictée par la tyrannie de notre propre biologie. Genre la croissance, les hormones, le vieillissement.
Ah, l'âge et tout ça.
Oui. L'apprentissage moteur explique comment acquérir une technique, mais le développement moteur, lui, explique pourquoi un enfant de 8 ans puis un adulte de 40 ans ne peuvent pas apprendre cette technique-là à la même vitesse.
Parce que le corps est juste différent.
Exact. Leur système nerveux, leur centre de gravité, leur masse musculaire, bien tout ça obéit plus aux mêmes lois temporelles.
C'est logique. Et si on se concentre sur cette idée de bâtir une infrastructure pour le futur, l'apprentissage moteur, donc, les documents pointent vers ce qui est probablement la plus grande illusion dans le monde de l'entraînement.
Ah, là, on entre dans le vif du sujet.
Ouais, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On fait face à une confusion monstre dans la quasi-totalité des dojos, des arénas puis des salles de sport. On confond vraiment allègrement la performance et l'apprentissage.
Totalement.
C'est pas des synonymes, mais on les traite comme tels, tu sais.
C'est le piège numéro un. Et c'est la distinction la plus critique de notre analyse aujourd'hui, je dirais.
OK.
La performance est purement comportementale et c'est observable à un instant T. C'est l'entraînement de ce soir. Et par nature, ben, c'est extrêmement volatile.
Genre, ça peut changer d'un jour à l'autre?
Absolument. La performance d'un athlète un mardi soir, ça dépend de ce qu'il a mangé à midi, de son niveau d'hydratation, de sa chicane avec son patron l'après-midi, ou même juste de la température dans la salle. C'est une photographie éphémère.
Alors que l'apprentissage, c'est quoi d'abord?
L'apprentissage, c'est un état interne. C'est totalement invisible à l'œil nu, mais c'est permanent.
D'accord.
C'est le changement neurologique de fond qui survit, peu importe si on a bien ou mal dormi la nuit d'avant.
Ah! L'analogie qui m'y est tout de suite en tête, c'est le bachotage au secondaire.
Oh, excellente comparaison.
Tu sais, un étudiant a un examen d'histoire le lendemain matin, il passe la nuit à mémoriser des dates de façon complètement frénétique. À 9 h le matin, il passe son test, bam, 100 %.
Il a la note parfaite.
Sa performance est impeccable. Le système est égavé pour livrer la marchandise à la seconde près. Mais si on débarque un mois plus tard puis qu'on lui fait passer le même test surprise, bien, il y a la note de zéro.
Il a tout oublié.
Exact, il a tout oublié. La performance était là sur le moment, mais l'apprentissage était nul. L'illusion était juste parfaite.
Cette analogie-là est super bonne parce qu'elle s'applique directement au système nerveux. Si on ramène ça au mouvement physique, bien, les conséquences psychologiques puis pédagogiques sont immenses.
Ah ouais.
Pour l'athlète, ça signifie qu'une mauvaise séance d'entraînement, ben c'est pas une régression de son apprentissage.
Ça, c'est tellement important à entendre.
Tu sais, on a tous des soirs où on est lent, où on rate chaque interception, où il y a absolument rien qui marche.
Tellement!
Mais c'est pas le cerveau qui a désappris le sport, c'est juste une variation négative de la performance immédiate.
Ouf, ça enlève un poids. Et pour le coach, ça doit être encore plus confrontant, non? Un entraîneur qui évalue la qualité de son propre enseignement en regardant si ses élèves réussissent bien le mouvement à la fin du cours, ben dans le fond, il se ment à lui-même.
Complètement. S'il leur fait répéter la même esquive isolée 40 fois de suite pendant une heure, c'est sûr qu'à la minute 59, tout le groupe va avoir l'air de vrais professionnels.
Mais le vrai test, c'est quoi alors?
Le vrai test et la seule vraie preuve scientifique de l'apprentissage moteur, c'est ce qu'on appelle le test de rétention ou le test de transfert.
OK, ça mange quoi en hiver, ce passite-là?
C'est-à-dire évaluer cette même technique-là après une bonne période de repos, disons une semaine sans y toucher du tout, et idéalement dans un contexte chaotique, différent de l'environnement stérile de la pratique du début.
Fait que si le mouvement survit au temps et au chaos du monde réel, c'est là qu'il y a eu un vrai apprentissage.
Voilà, exactement.
D'accord. La théorie est super solide, mais là, on fait face à un mur logique, me semble.
Lequel?
Bien, si l'apprentissage, c'est un processus interne complètement invisible, puis que la performance immédiate, c'est une menteuse, comment les chercheurs font pour affirmer tout ça?
Ah!
Je veux dire, on peut pas juste asseoir un gars à une chaise puis deviner qu'il a internalisé un swing de golf, tu sais. Faut bien aller regarder à l'intérieur de la machine pour amasser des données.
Bien, c'est tout le défi de ce domaine de recherche-là. Puis c'est pour ça que la science a dû inventer puis affiner des outils de plus en plus intrusifs pour traquer cet apprentissage-là.
OK, ils utilisent quoi, mettons?
Au début, on se contentait de mesures purement comportementales. On restait un peu à la surface. On mesurait le temps de réaction à un stimulus, la marge d'erreur spatiale quand quelqu'un essayait de lancer un objet sur une cible.
C'est utile, mais ça me semble limité.
Très limité.
C'est utile pour savoir si la personne a réussi l'action plus vite, mais le chronomètre nous dit pas du tout comment le corps s'est réorganisé pour grappiller ces millisecondes-là. Ça décrit pas la mécanique pantoute.
Exactement l'impasse qui a mené à la deuxième famille d'outils. Les mesures cinématiques.
Cinématiques, OK.
Là, on a commencé à utiliser des caméras à haute fréquence puis des marqueurs infrarouges sur les articulations, un peu comme la capture de mouvement pour les jeux vidéo ou le cinéma, tu sais.
Ah, avec les petits points blancs, sa combinaison noire.
Oui, c'est ça. Ça permet aux scientifiques de reconstruire la géométrie exacte du squelette dans l'espace. On voit la vélocité d'une rotation de hanche, l'angle super précis d'un genou pendant un appui.
Sauf que, encore une fois, la cinématique nous donne une superbe modélisation 3D du résultat physique, du squelette qui bouge.
Oui.
Mais tu sais, les os bougent pas tout seuls. C'est le muscle qui tire, ça lousse. Fait que, comment on analyse ce qui a causé ce mouvement géométrique-là?
C'est là qu'on branche l'électromyographie, ou l'EMG. Là, on passe vraiment à un niveau supérieur d'intimité avec le corps. On colle des électrodes sur la peau ou bien on insère de fines aiguilles directement dans le tissu musculaire pour lire l'activité électrique.
Aïe aïe, OK.
On regarde plus le mouvement fini, on regarde la symphonie électrique qu'il crée. On observe quel faisceau de fibres musculaires reçoit l'ordre de se contracter, à quelle milliseconde précise, puis avec quelle amplitude de voltage.
Wow!
On voit l'intention du système nerveux central avant même que le membre bouge physiquement.
C'est fou, pareil, on lit la commande électrique brute, mais tu sais, l'origine de cette commande-là, c'est le cerveau. Est-ce qu'on va jusqu'à analyser la source elle-même?
Oui, oui. Et c'est la quatrième étape, le summum de l'outil scientifique en ce moment, la neurophysiologie.
OK.
On parle ici de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'IRMF.
Les gros tubes d'IRM.
Exact. On regarde carrément à l'intérieur de la boîte crânienne, pendant ou après l'apprentissage. Et si on relie ça à une vision plus globale de notre discussion, ben c'est l'IRMF qui a fourni la preuve irréfutable que l'apprentissage, c'est pas qu'une vue de l'esprit.
Ah ouais!
L'IRMF montre que le cerveau d'un expert est physiquement, architecturellement différent de celui d'un novice.
Attends un peu, là. On parle pas juste d'une question d'activité électrique temporaire. On parle vraiment d'un vrai changement physique dans la matière même du cerveau.
Une transformation physique, oui. C'est le grand miracle de la neuroplasticité. Quand on s'acharne à apprendre un mouvement, les réseaux neuronaux sollicités s'adaptent.
Capoté!
Plus spécifiquement, on observe un phénomène qui s'appelle la myélinisation. La myéline, dans le fond, c'est une gaine de graisse qui vient entourer les axones, qui sont comme les câbles de nos neurones.
OK, la gaine de graisse?
Oui, oui. Puis quand on pratique, cette gaine-là s'épaissit. C'est littéralement de l'isolation électrique. Ça empêche le signal de fuir, puis ça augmente drastiquement la vitesse de transmission.
Wow!
L'apprentissage moteur, c'est transformer un petit chemin de terre chaotique dans notre cerveau en une grosse autoroute asphaltée à 6 voies. C'est pour ça qu'un expert est si rapide et fluide. Son signal électrique voyage sur de la myéline épaisse.
C'est super fascinant parce que ça rend le concept d'apprentissage totalement concret, t'sais? Mais toute cette belle science fondamentale-là, avec ses câbles myélinisés puis ses électrodes, mais ça reste pas juste coincé dans un laboratoire blanc?
Non, vraiment pas.
Ce que les sources montrent, c'est comment ces découvertes-là ont percuté de plein fouet le monde réel.
Puis l'un des exemples les plus critiques, ben, au-delà des performances sportives, c'est dans le milieu clinique.
Absolument.
Je pense notamment à la réadaptation après un AVC, un accident vasculaire cérébral.
Le contexte post-AVC, c'est vraiment le laboratoire ultime de l'apprentissage moteur appliqué. T'sais, une partie du cerveau a été endommagée par le manque d'oxygène, fait que les réseaux neuronaux associés au mouvement sont détruits.
C'est tragique.
Le patient doit littéralement forcer la neuroplasticité à recréer des routes alternatives juste pour pouvoir marcher ou utiliser son bras. Là, on parle plus de gagner une médaille, on parle d'une question de dignité puis de survie. Au lieu de faire, mettons, 3 heures de rééducation d'affilée au patient pour le forcer à réapprendre, on fractionne.
C'est ça.
Des courtes sessions d'efforts super intenses, suivies de longues pauses. La recherche a prouvé que la fatigue neurologique, ben, ça bloque la rétention. Si le système nerveux central est épuisé, on a beau répéter le mouvement à l'infini, il n'y a aucune myéline qui va se former.
Exact.
Et il y a un autre aspect majeur issu des labos qui a révolutionné la clinique. La gestion du feedback.
OK.
Les retours du thérapeute.
C'est ça, les retours d'années au patient. Avant, on pensait qu'il fallait corriger le patient à chaque micro-erreur. Dès que son pied déviait d'un millimètre, bam, on lui disait.
Mais c'est ce qu'on fait souvent en sport, tu sais.
Ouais.
Alors, les études ont mis en lumière l'hypothèse du guidage. Si on donne un retour constant, le patient devient complètement dépendant de la voix du thérapeute.
Ah, il s'écoute plus lui-même.
Exactement. Son propre cerveau fait plus l'effort cognitif de détecter l'erreur sensorielle. Pour créer un apprentissage permanent, il faut estomper les retours. Il faut laisser le patient se tromper, puis laisser son système nerveux calibrer la correction par lui-même.
C'est fou, c'est genre le droit à l'erreur comme outil neurologique.
En plein ça.
Et cette même révolution scientifique-là, on la voit exploser en ce moment dans le sport de haut niveau. Les sources mettent vraiment un gros coup de projecteur sur ce qui se passe dans le jiu-jitsu brésilien, par exemple.
Oui, un excellent exemple. C'est un sport qui est extrêmement complexe techniquement. Puis on voit des entraîneurs d'élite comme John Danaher ou Greg Saunders qui ont juste pris la pédagogie traditionnelle puis qui l'ont jetée aux poubelles.
C'est que ce qui se passe dans le jiu-jitsu, c'est l'application directe des principes moteurs qu'on vient juste d'aborder. La vieille école, c'était le professeur qui démontre une clé de bras pendant 10 minutes en avant de la classe.
OK, la démo classique.
Ouais. Ensuite, les élèves vont dans leur coin. Le partenaire se laisse faire un peu comme un mannequin de bois. Puis on répète le geste de façon hyper rigide. Zéro résistance.
OK.
La performance augmente. Ça, on a vu que c'est une belle illusion. Mais le transfert en situation de combat réel, ben, il est misérable.
Ben, c'est sûr.
Ouais.
Parce qu'en combat, le partenaire, c'est pas un mannequin. T'sais. Il vient essayer de t'arracher la tête.
Exactement.
Alors, comment ces nouveaux coachs-là intègrent la science concrètement sur les tapis?
Ils utilisent une approche qui s'appelle la dynamique écologique, qui est basée sur les contraintes. Au lieu de dicter des angles articulaires stricts, genre « place ton pied à 45 degrés », ben, ils conçoivent des jeux asymétriques.
Des jeux? Comment ça?
Ben, l'entraîneur va dire un truc du genre « ton seul objectif, c'est de garder le dos de ton adversaire contre le sol, mais tu n'as pas le droit d'utiliser tes mains, l'autre doit essayer de se relever, allez-y ».
Wow! OK.
Le coach donne aucune solution biomécanique. Il fait juste contraindre l'environnement. Puis c'est le système nerveux de l'élève qui s'auto-organise pour trouver l'équilibre puis la pression nécessaire pour réussir.
Ah! Puis c'est là qu'entre en jeu un concept neurologique majeur. La différence entre le focus attentionnel interne et externe, non?
Oui, exactement.
Si un coach t'écrit genre « contracte ton psoas puis fléchis tes orteils », ça, c'est un focus interne.
Ouais.
Ça force le cerveau à utiliser le cortex préfrontal, qui est comme la zone de la pensée analytique puis consciente. Et le cortex préfrontal, ben, il est lent, il suranalyse, puis ça crée des mouvements super robotiques. C'est vraiment la recette parfaite pour figer sous la pression, mettons.
Absolument. Puis à l'inverse, ben, l'approche écologique favorise le focus externe.
OK.
En disant des choses comme « repousse le sol loin de toi » ou « manipule le col de l'adversaire ». On dirige l'attention sur l'effet de l'action dans l'espace.
Et devine quoi?
Quoi?
Mais ça permet de contourner le cortex conscient et de laisser les ganglions de la base, qui sont le vrai centre cérébral des automatismes moteurs, ben de faire le travail de façon super fluide et ultra rapide. On arrête de micro-gérer la mécanique interne. C'est tellement brillant. Fait que quand on voit ces drôles de méthodes d'entraînement-là émerger un peu partout, ben c'est pas juste des caprices de coach qui veulent faire différent pour bien paraître sur Instagram, là.
Non, pas du tout.
C'est l'alignement total entre ce qu'on fait sur les tapis de lutte puis comment notre cerveau est physiquement câblé pour apprendre qu'il. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire, au fond?
Ça veut dire qu'on cesse de se battre contre la nature humaine pour enfin collaborer avec la neurologie de nos athlètes, tout simplement.
C'est puissant. Si on rassemble toutes les pièces du puzzle avant de conclure. Ce qu'il faut vraiment retenir aujourd'hui, c'est que l'apprentissage du mouvement a absolument rien de magique.
Non, zéro magie.
C'est un changement structurel physique dans le cerveau, tu sais, une prise de poids de la myéline étudiée à travers nos trois fameuses branches temporelles, le contrôle immédiat, l'apprentissage futur et le développement biologique à long terme.
Et il y a cette loi fondamentale aussi?
Oui, surtout la loi fondamentale. La fluidité d'un soir n'est qu'une performance éphémère. L'apprentissage profond, ça, ça prend du temps, puis ça nécessite des conditions super précises pour s'ancrer pour de vrai.
Et c'est ça qui pave la voie à des découvertes encore plus surprenantes de la part des chercheurs du milieu, des gens comme Fitz puis Posner ou Shea puis Morgan, tu sais.
Ah oui.
Leurs découvertes vont totalement à l'encontre du bon sens populaire.
Des découvertes qui prouvent que le confort, c'est vraiment l'ennemi de l'apprentissage.
Totalement. Leurs travaux sur la pratique bloquée versus la pratique aléatoire, ben ça démontre que si on mélange les techniques pendant une séance, mettons un jab suivi d'un balayage puis un sprint de façon complètement imprévisible,
ouais.
Ben la performance le soir même est désastreuse. L'athlète a l'air complètement confus, il rate énormément de choses.
L'ego en prend un coup, c'est sûr.
Ah oui, mais sur le long terme, cette pratique aléatoire et ultra frustrante-là oblige le cerveau à reconstruire le programme moteur à chaque tentative. Et c'est exactement cet effort cognitif précis-là qui vient cimenter la mémoire musculaire. Le chaos, c'est littéralement la meilleure fertilisation pour la rétention.
Fait que la frustration, c'est pas le signal d'un échec pantoute. C'est juste le signal que le cerveau est en train de travailler pour vrai. Je trouve ça extrêmement rassurant.
C'est très rassurant, ouais. Mais cela soulève une question importante, peut-être la plus déstabilisante quand on analyse la littérature sur l'apprentissage moteur implicite.
OK, je t'écoute.
On sait que le corps est capable de résoudre des équations physiques hyper complexes, d'histoires de levier puis de balancier de façon totalement subconsciente, sans même pouvoir l'expliquer.
Ouais.
Sachant cela, on peut sérieusement se demander si notre approche traditionnelle de l'enseignement n'est pas profondément toxique.
Aïe, aïe! Est-ce que les professeurs qui expliquent le moindre petit détail de placement brisent carrément la machine? Ça remet vraiment tout en question. Si notre corps apprend mieux et retient de façon plus permanente quand on le contraint physiquement puis qu'on laisse juste patauger dans le chaos pour trouver sa propre solution, est-ce que nos mots, nos longues explications rationnelles sont pas finalement la plus grande barrière à notre propre génie physique? C'est vraiment une excellente piste de réflexion pour la prochaine fois qu'on a envie de trop parler sur un terrain.